Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Sur RDWA 107.5 FM et internet www.rdwa.fr, en compagnie de Bernard Cellier, bonjour.
Bonjour.
Nous allons parler de la fête des étoiles, Marignac fête les étoiles, désormais traditionnelle, cette rencontre, samedi 10 août, avec l'association Marignac à ciel ouvert que vous représentez.
Alors, moi je représente l'association Marignac à ciel ouvert, je suis secrétaire. Et c'est Guillaume Cellier qui en est le président, mais enfin, on s'en occupe activement tous les deux. Et cette année, on a la chance d'accueillir le club Les Pléiades de Beaumont-les-Valences, et qui viennent avec 6 astronomes et leur télescope. Donc ça fera quand même beaucoup d'observations à faire. Il y aura 2 collègues qui sont astronomes sur 10 qui viennent, et encore un autre astronome qui vient, mais lui qui vient sans télescope, mais qui apporte ses connaissances.
Les années précédentes, vous étiez...
Alors, les années précédentes, on le faisait avec des clubs différents. On a fait avec la Société Astronomique de France, avec des membres de la Société Astronomique de Lyon aussi, occasionnellement, mais surtout aussi avec l'Astroclub de France. Voilà. Et cette année, on a changé de club pour varier les compétences.
On s'attend pas à ce qu'à Beaumont-les-Valences, on observe comme ça le ciel. Alors, plus on se rapproche du milieu urbain, d'ailleurs, plus c'est compliqué, non?
Alors oui, parce que ça leur demande beaucoup de filtres, justement, pour enlever les éclairages publics, parce qu'ils sont en zone industrielle et maintenant, ils commencent à souffrir. Donc, ils font beaucoup de soirées pédagogie, ils font beaucoup de conférences, mais au niveau observation, ils vont beaucoup plus loin maintenant, parce que la zone industrielle s'est rapprochée de leur site, dont ils avaient eu le bénéfice il y a une quinzaine d'années.
Et la pollution qui nappe, des fois on le voit par exemple, enfin, au-dessus de Grenoble c'est très caractéristique, est-ce que ça joue aussi?
Au-dessus de Grenoble c'est quand même assez important, ça ouais. C'est vrai, mais les astronomes vont plutôt dans les Alpes observer. Dans le Diwa, on a la chance d'avoir un milieu préservé. J'attire ton attention sur le fait qu'à Marignac, on a beaucoup de lichens sur les arbres, sur les noyers, sur les frênes et tout ça, ce qui est un signe de pureté de l'air.
Ah, pourtant on est dans une phase de pollution d'ozone, là, il paraît, non?
Oui, mais enfin bon, l'ozone concerne les milieux urbains, et Marignac, c'est quand même pas très touché par l'urbanisation, au contraire.
Alors, à Marignac, vous êtes placé où?
Le lieu du rendez-vous pour cet événement festif et de connaissance, c'est l'aire de loisirs que les Liwois connaissent bien.
Avec le Zikinwood, notamment.
Surtout avec Zikinwood, avec un tas d'événements, et qui est un espace communal qui est prêté à des associations et à des particuliers. Et puis, là, on s'installe sur le stade de foot et il y a une buvette à proximité.
Le rendez-vous est à partir de 17h. Et donc, avec le club Les Pléiades, vous avez prévu comme ça une série de choses à observer.
Alors,
et notamment des outils à manipuler aussi.
Alors, il y aura des outils à manipuler, mais surtout de l'observation. Et surtout, il faut venir avec sa curiosité, même un papier, un crayon, pour bien enregistrer toutes les réponses que feront les astronomes. Et cette année, on pourra observer les manifestations du Soleil, enfin, ce qu'on appelle les observations coronales. C'est-à-dire la couronne qu'on observe du Soleil, toutes les explosions qu'il peut y avoir à 150 millions de kilomètres. Et c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant à voir toutes ces manifestations qui ont une influence sur notre quotidien et sur notre vie de tous les jours.
Ah oui, par exemple
C'est arrivé il y a plusieurs années. Une fois, il y avait eu une... Exactement, je ne me rappelle pas la date. Mais il y avait eu une explosion très très importante. Enfin, une explosion, une gerbe qui avait... exploser à la surface du Soleil, et il faut 10 minutes pour que les ondes du Soleil nous arrivent sur Terre, et ça avait changé un aiguillage dans la partie du Canada, et ça avait fait dérailler un train. C'est vraiment un exemple exceptionnel que je donne.
Ah oui,
ça arrive rarement, des explosions, enfin des manifestations aussi fortes. Mais ça avait eu un gros retentissement au Canada parce que bon, ça avait été une affaire sur le plan juridique qui avait sensibilisé le public. L'armée américaine surveille en permanence, justement, pour ces satellites d'observation, les activités solaires. Pardon, j'ai dit explosion, on parle de perturbation solaire. C'est le terme le plus fin, qui est le plus adapté, quoi.
Alors ça vient perturber le magnétisme, j'allais dire, l'électronique.
Absolument.
Et donc sur l'humain aussi.
On est traversé par beaucoup de choses, par les neutrinos, et là ça se compte en milliards de neutrinos au centimètre carré, à la seconde. Mais on ne les voit pas, on ne le sent pas. Le soleil, en ce moment, on le sent parce qu'il y a un réchauffement climatique très important. Mais il faut compter à peu près 10 minutes pour que un petit photon qui traverse le ciel, l'espace, nous arrive. Donc c'est sûr qu'on est absolument touché par le rayonnement solaire, à tel point que les aurores boréales en sont la manifestation depuis l'Antiquité, notamment des Vikings qui croyaient que c'était les draperies des habitats des dieux vikings, quoi.
Pour observer ces perturbations solaires, il faut, j'imagine, un appareil très spécial. On ne regarde pas le soleil à l'œil nu.
C'est extrêmement dangereux d'observer le soleil à l'œil nu, même avec des lunettes de soleil. C'est extrêmement dangereux. Il faut une lunette particulière. Et ça s'appelle un filtre, avec des filtres alpha, c'est la terminologie. Et là, on voit le soleil comme une énorme orange et qui pétille.
C'est différent des lunettes qu'on met pour observer les éclipses, qui, elles, sont un petit peu, annihilées complètement.
C'est un peu léger comme équipement, vraiment léger. Là, on voit vraiment en détail les manifestations. C'est comme un gros pamplemousse, en fait, ou un agrume qui pétille, en fait. C'est un peu ça.
Alors, le Club des Pléiades est équipé comme ça d'une série de matériel ?
Bien sûr. Alors, ils ont des lunettes alpha, ils ont aussi, surtout, des télescopes. Des télescopes d'une portée conséquente, puis ce qui est important, c'est la dimension du miroir et la résolution qui permet d'observer le ciel profond.
Donc ça commence à 17h, c'est pour ça qu'on peut observer du coup le soleil.
On va observer le soleil, il y aura un sentier des planètes. Alors un sentier des planètes, c'est la représentation du système solaire à une échelle humaine. C'est-à-dire qu'on va mettre le soleil, mettons que Radio Diwa le soleil, et un peu plus loin, il y aura Mercure à tant de mètres ou à tant de centaines de mètres. Un peu plus loin, après, il y aura Vénus, il y aura la Terre, il y aura Mars, tout ça. Après, il y aura la ceinture de rochers, enfin la ceinture de Kuiper, pardon. Et après, les géantes gazeuses, quoi.
On mettra 10 minutes pour aller du Soleil à la Terre dans cette balade.
peut-être plus loin, je ne sais pas. En tout cas, on n'ira pas jusqu'à Pluton, parce que si on voulait mettre Pluton, on serait obligé d'aller, par exemple, à Beaufort-sur-Gervanne, si c'est dans ce sens-là. Et heureusement, Pluton est sorti du système solaire. Oui, ça fera une promenade moins longue, quoi.
On peut le rappeler, ça. Pourquoi, d'ailleurs, on l'a viré, Pluton ?
Alors, Pluton est une planète qui a été découverte par les Américains, la première qui avait été découverte par les Américains, qui ont été très fâchés que les astronomes, l'Union astronomique internationale, la déclasse, parce qu'elle était trop loin dans le système solaire et qu'elle ne correspondait pas aux critères astronomiques en tant qu'objet céleste observable, enfin de qualité, quoi, pour l'Union astronomique internationale. Bon, moi j'ai...
Voilà, elle semble venir d'un autre endroit, être attirée dans le système solaire, en ressortir par moment, re-rentrer.
C'est un peu ça. J'ai pas les critères de. Bon, je peux pas dire.
On pourra poser toutes ces questions.
J'ai pas les compétences, mais en tout cas, il faut pas hésiter à poser les questions, bien sûr. Mais il y aura des choses intéressantes à observer parce qu'on est actuellement dans un ciel d'été. Dans un ciel d'été, on peut observer Jupiter et avec les tempêtes. On peut observer, bien sûr, Saturne avec les anneaux, mais qui est tout petit, en fait, parce qu'elle est très, très éloignée dans le système solaire. Par contre, sa révolution est très lente. Donc, elle est aisément observable. Et puis, qu'est-ce qu'il y aura d'autre à observer ? Un tas de constellations, quoi. Et peut-être même l'ISS.
Ah, c'est vrai, ça se voit.
L'ISS est à côté, c'est à 400 km.
Ouais. On voit passer des satellites déjà de temps en temps quand ils brillent un peu, enfin par reflet.
L'ISS est très très brillante parce qu'elle est dans le faisceau du Soleil. C'est pour ça que même en nuit profonde, on la voit vraiment bien bien brillante.
Ça se trouve, je l'ai déjà vu, quoi. C'est-à-dire
sans savoir, en pensant que c'était un satellite, alors qu'en fait c'était l'ISS, qui est un gros satellite qui tombe dans le ciel, quoi.
Elle a de l'intérêt, cette station spatiale
internationale. Elle coûte cher en impôts à l'Union européenne et puis aussi aux États-Unis et puis à la Russie. C'est dommage que la Chine ait été écartée par la NASA, parce que ça aurait pu faire une plus grosse station, ou même, bon, c'est comme ça. Mais oui, il y a beaucoup d'expériences qui sont faites, notamment sur la résistance du corps humain, qui avait été faite par Thomas Pesquet, qui est un colosse spationaute, enfin, astronaute, pardon. Mais il y a aussi beaucoup d'expériences sur les plantes, sur ce qui se promène dans l'espace, qu'est-ce qu'on trouve dans l'espace, sur les poussières qui promènent dans les micrométéorites, un tas de choses comme ça, quoi.
Pourquoi vous êtes passionné, les celliers, des étoiles?
Disons que les celliers, on est passionné par un tas de choses et on se pose beaucoup de questions, que ce soit Guillaume et moi, ça fait souvent des débats passionnés. Et on n'essaye pas forcément de s'imiter à ce qu'il y a sous nos pieds, devant nos pieds, que ce soit au niveau de l'entomologie ou bien que ce soit au niveau... je ne sais pas, de l'apiculture ou un tas de choses comme ça. On aime bien regarder le ciel aussi et comprendre pourquoi on est là et qu'est-ce qui se passe derrière, quoi.
L'humain a toujours observé le ciel, en fait. Progresse.
Depuis l'Antiquité, ouais. L'homme a observé le ciel en y mettant tous ses rêves et ses chimères aussi, souvent, et en y mettant en inventant des histoires, notamment en inventant les constellations. Les constellations n'ont pas une réalité, sont des repères. Mais sur le plan scientifique, ils n'ont qu'une réalité relative.
C'est-à-dire, par exemple, la Grande Ourse qu'on connaît par cœur, ces étoiles ne sont pas sur le même plan, en vérité? On les a associées parce que ça faisait quelque chose de
exactement,
joli?
Exactement. C'est surtout pertinent pour d'autres constellations, mais la Grande Ourse, oui, elle a servi de repère pendant des centaines d'années pour les Égyptiens, parce qu'on s'est aperçu que le couloir de sortie du tombeau qui était dans les pyramides, enfin dans les quelques pyramides qu'on a en Égypte, était pointé sur la Grande Ourse. Donc les Égyptiens avaient déjà des connaissances en astronomie, alors assez fortes pour arriver à tailler la pierre dans ce sens-là, à assembler les pierres pour qu'elle fasse un faisceau qui oriente sur l'étoile polaire, pardon, pas sur la parce que l'étoile polaire est décalée quand même par rapport à la Grande Ourse. Mais enfin déjà ils avaient ces systèmes de calcul.
Et pourquoi? On a une idée.
Parce que pour eux, c'était une façon de se rapprocher de l'éternité, du divin.
Ouais, divin.
Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Est-ce qu'il y a un système politique? Est-ce qu'on tombe dans le Nil et puis on revient sur la berge et on redevient un pharaon? C'était les questions qui se posaient. Mais les Babyloniens se posaient déjà les mêmes questions. Les Amérindiens aussi, enfin les Mayas, les Quechuas, avaient monté des pyramides à degrés, et quand on assemble le nombre de marches, on arrive à 365 jours. C'est extrêmement précis.
Donc tout était une question un peu spirituelle.
Exactement.
Et puis il y a eu la navigation quand même, les étoiles, ça permet aussi de se déplacer.
Et la recherche du temps aussi. Et la recherche du temps. Combien de temps on met pour aller d'un point à un autre? Et comment fait-on aussi pour prouver que la rotondité de la Terre. Les Grecs s'étaient déjà posé cette question du temps de Ptolémée.
Oui, donc on savait déjà bien avant que la Terre n'était pas plate, sauf qu'on n'osait pas le dire.
Voilà. Les Grecs avaient déjà calculé à quelques milliers de kilomètres avec leurs moyens la distance entre la Terre et le Soleil. Mais bon, il y a quand même plusieurs milliers de kilomètres d'écart.
Aujourd'hui, observer le ciel, s'y rendre, la NASA, tous ceux qu'on a cités, c'est dans l'espoir toujours de retrouver une autre vie ou une autre planète
Oui, mais habitable. Enfin, c'est une chimère, parce que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la Terre n'est pas la prochaine planète à conquérir? Que ce soit sur le plan spirituel, mais sur le plan aussi de l'écologie, par exemple.
Tout à fait. Oui, pour l'instant, on l'a détruit, tranquillement.
Tranquillement, oui.
Mais sûrement.
Elle se régénère par endroits, mais c'est avec beaucoup de peine et de souffrance, quoi.
Est-ce que ça peut faire partie justement des thèmes que vous voulez faire aborder, ouvrir la réflexion
pourquoi
là-dessus
pas,
dans le cadre de
pourquoi
la fête
pas. Alors,
des étoiles?
Bien sûr, après, il y aura, pour continuer l'exposé, il y aura une conférence sur le système solaire, mais on est prêt à toutes les questions, bien sûr.
Une conférence sur grand écran, alors du coup on aura les yeux éclatés pour regarder les étoiles après.
Un grand écran, j'insiste, le pestel n'aura que bien se tenir.
Ah oui, un très très grand écran.
Non, 3 mètres sur 4, c'est bon.
Alors donc oui, promenade sur les sentiers des planètes, puis à 21h, cette conférence sur grand écran. Alors la conférence, on rentre dans le détail un petit peu?
Ce sera une présentation globale, générale du système solaire, et aussi certainement des premiers voyages spatiaux qui se sont posés sur la Lune, notamment par la NASA, et dont on a parlé, dont on a fêté le cinquantenaire il y a quelques temps, enfin la semaine dernière, pardon.
Avec cet éternel débat, est-ce vrai, est-ce faux? Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
De toute façon, qu'il y a eu des engins qui se soient posés sur la Lune, c'est une évidence, parce qu'on
constate... On a ramené du matériel, en plus.
On a ramené des matériaux, on a ramené des roches, et en plus, il y a des... Que ce soit du temps de la période soviétique que de la période américaine, enfin, après Kennedy, il y a eu des miroirs qui se sont posés qui permettent de mesurer la distance exacte entre la Lune et la Terre. Et on sait depuis que que la Lune s'écarte régulièrement de 3-4 cm tous les ans, à peu près.
Pourquoi ?
Parce que c'est un satellite planétaire qui tourne, c'est un peu comme... Oui, c'est un peu le terme. Je cherchais le terme. Oui, c'est ça, elle s'écarte, quoi. Elle s'écarte et puis aussi la gravitation est moindre. Et comment vous
la gravitation de la Terre a baissé?
Ça, je ne sais pas. Il y a moins d'attractivité entre la Lune et la Terre, même si elle a une forte puissance, une forte influence sur les marées. Oui, mais sa vitesse de rotation joue légèrement, mais c'est à quelques secondes qui prouve son éloignement et en plus de la mesure au laser.
Voilà, donc on ne répond pas à la question s'ils y sont bien allés en 69, mais par contre, il y a bien des choses qui ont été posées
là-bas. Voilà, il y a des choses qui ont été posées, ça c'est sûr. Ouais.
Alors des miroirs, ça c'est assez étonnant. Donc pour viser
la Lune, ouais, régulièrement, il y a des miroirs, que ce soit en France. Alors c'est l'Observatoire du Midi, Côte d'Azur, je ne me rappelle plus l'intitulé exact, qui eux mesurent régulièrement et avec d'autres observatoires, qui envoient un rayon laser et la longueur, la fréquence permettent de déterminer exactement ces 380 000 km. Je ne sais plus la longueur exacte, mais c'est faramineux, quoi, de précision.
Et puis les Chinois, ils sont retournés.
Alors les Chinois n'y sont pas allés physiquement. Enfin, ouais. Ils y ont été, ils ont envoyé un système pour voir un peu ce qui se passait de l'autre côté. Voilà.
Et on n'a pas trop de nouvelles d'ailleurs de ça. On ne sait pas ce qu'ils ont vu.
Les Chinois sont assez discrets au niveau communication.
Tout à fait. Alors, à partir de 22h, on observe.
Pour fabriquer des appareils.
Oui, c'est vrai. Ah bon, vous avez un Huawei, c'est ça?
Ça va être la Xiaomi.
Alors, 22h, observation au télescope, donc des différentes constellations. Est-ce qu'il y en a quelques-unes qui devraient nous attirer l'attention? Lesquelles on pourrait citer? Alors, et pour quelles raisons?
J'allais dire le collier de perles, mais ça ne s'appelle pas comme ça. Il y a la couronne boréale, il y a la constellation de la Lyre, on a parlé de la Grande Ourse. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a Cassiopée, bien sûr. Il y en a une foultitude de constellations observées.
Elles ont un intérêt scientifique?
Il y a le triangle d'été aussi, avec Vega, Altaïr, Deneb.
Est-ce qu'elles ont un intérêt scientifique particulier, des choses à décrire sur ces constellations? C'est plus pour apprendre à les reconnaître, j'allais dire?
Pour nous, oui. Pour nous, oui. On se pose des questions et on pose des questions à des scientifiques qui essayent de faire qui nous donnent une approche la plus de vulgarisation la plus claire possible. Mais il y a encore des milliers de choses à apprendre sur le monde qui est au-dessus de nous. Et on n'en connaît même pas 20%. Qu'est-ce que je dis? Mais trois fois rien, quoi.
Ouais. Il paraît qu'on connaît moins de 20% de la mer déjà qui est chez nous. Alors si en plus...
Oui, les grands fonds n'ont jamais été explorés. On a fait quelques sondages. On sait qu'il y a des métaux rares, on sait qu'il y a des poissons et des formes de vie qui sont hallucinantes. Mais c'est pareil, le ciel, on ne sait très très peu de choses parce que ça demande des moyens et parce qu'il y a des distances considérables pour observer des objets célestes. On ne peut les observer pratiquement qu'en radioastronomie, donc ça demande, c'est moins poétique que d'observer par un télescope. Et les images qu'on a en radioastronomie sont surtout des sons ou alors des carrés ou des pixels, quoi. Mais c'est particulier, quoi.
Et puis ces constellations-là, en dehors du fait que bah voilà, on les a, on les connaît un petit peu, on pourrait imaginer, essayer d'analyser tel ou tel composé de telle ou telle étoile. Il y en a qui sont mortes, mais dont on a encore la lumière. Enfin, il y a des choses assez...
Ça, oui, ça c'est la théorie d'Einstein. Mais c'est-à-dire que le temps qu'une qu'on reçoive la lumière, l'étoile a déjà disparu. C'est devenu une géante rouge, elle a explosé. Voilà. Mais là, je parlais de radioastronomie, c'est ce qu'il y a de plus fiable ou de plus fin, ou alors d'envoyer des télescopes vraiment en très très haute, très, très haute distance, enfin une distance très éloignée pour avoir une observation, un balayage très, très fin du ciel qui nous renseigne mieux que ce qu'on aura sur Terre parce qu'on sera gêné par la pollution lumineuse ou magnétique. Quoi.
On parle de Hubble, là, par exemple. C'est celui-là qui est.
Alors, il y a Hubble,
célèbre,
mais c'est le plus célèbre parce qu'il est en marche depuis de nombreuses années, depuis plus d'une vingtaine d'années. Mais il y en a un autre qui est en préparation et qui, lui, sera réellement performant.
Réellement ?
Ah oui, réellement. En termes de résolution, enfin de distance, quoi. Enfin, parler de distance dans l'espace, c'est un peu particulier parce qu'en fait, il y a la distance et le temps, c'est presque la même chose. Quoi.
Nous, on est obligé de le parler en distance puisque c'est que comme ça qu'on comprend un peu sur Terre. On va d'un point A à un point B. On met un certain temps aussi.
Oui, mais est-ce que c'est la voiture qui fait qui va à telle vitesse, ou bien est-ce que c'est la Terre qui tourne à une autre vitesse dans l'autre sens qui fait qu'on va plus vite et qu'on a un rapprochement du point où on veut aller qui est différent suivant comment on calcule. La Terre, elle tourne sous notre latitude à un peu moins de 1500 km/h, à peu près, sous notre latitude. Au niveau de l'équateur, on va compter 1500. Elle va tourner autour du Soleil à 107 000 km/h. Le Soleil, lui, il va se déplacer dans la Voie lactée. La Voie lactée, c'est un peu comme une main écartée, un peu comme une étoile de mer. Et le Soleil, il va se déplacer dans la galaxie de la Voie lactée, entre les bras, à peu près 700 000 km/h. Et la Voie lactée en elle-même, qui est une constellation qui est fabuleuse, où il y a des centaines de milliards d'étoiles, elle va se déplacer, elle aussi, à plus de 2 millions de km/h. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de distance, en fait, ou de temps. Le temps, ou une durée, ou une période, c'est une distance qui s'éloigne. C'est ce que je veux dire, en fait.
Ça fait combien de temps qu'il y a les fêtes des étoiles à Marignac ?
Alors, ce sont les cinquièmes rencontres. L'année dernière, on n'a pas pu le faire pour X raisons, quoi.
Donc du coup, est-ce qu'il n'y a pas une évolution quand même dans le questionnement par rapport à ces scientifiques je parlais de ces différentes constellations qu'on connaît. Est-ce que vous avez pu comme ça progresser en cinq éditions ?
Ah, on s'est un petit peu posé un tas de... On se pose encore un tas de questions. Et c'est surtout qu'est-ce qu'il y a entre les objets ? Qu'est-ce qu'il y a de palpable ? Au niveau de la matière noire, au niveau de l'énergie noire, qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, il y a des centaines d'années, on appelait ça l'éther. À notre époque, on appelle ça la matière noire ou l'énergie noire. Mais il y a tellement de millions de questions à se poser là-dessus.
C'est-à-dire la matière noire ?
Bah,
c'est pas les trous noirs, c'est...
Ah non. Un trou noir... pour parler schématiquement, c'est comme le Soleil. Supposons le Soleil, actuellement, il est à peu près 150 millions de kilomètres de la Terre, à peu près. C'est une toute petite étoile, c'est à peine une petite tête d'épingle dans l'espace. C'est infinitésimal. Mais à notre échelle, à nous, au niveau du système solaire, sa durée de vie est de à peu près 10-12 milliards d'années. On en a passé 5 déjà, en sa compagnie. Il en reste à peu près autant, à peu près 5 milliards d'années. Comment va-t-il mourir, ce Soleil ? On ne sait pas. Donc il va grossir. Il va y avoir une force centrifuge et une force interne, une force d'attraction, une force centripète, qui va attirer l'énergie et la matière à l'intérieur et qui va en expulser une autre partie à l'extérieur. Suivant l'équilibre ou le déséquilibre de ces forces et qui va entraîner cette matière, il peut se concentrer, la matière peut se concentrer à un tel point que ça peut devenir ce qu'on appelle soit un quasar ou soit une géante rouge. Une géante rouge, c'est-à-dire qu'il explose et il devient gigantesque jusqu'au point où il va tout cramer sur Terre.
Absorbe tout, toutes les planètes qu'il a avec
lui. Il va tout cramer,
lui.
Pas toutes les planètes, mais une grosse partie. Et au milieu peut se retrouver un effondrement de la matière. C'est très schématique, hein, ce que je dis. C'est très, très schématique. Et il y a des astronomes qui vont entendre ça, ils vont bondir. Mais, non, mais c'est vraiment très simplifié. Disons que la matière se concentre à un tel point qu'elle aspire tout, elle absorbe tout. Même la lumière, les micros, tout. Même le temps. Le temps n'a plus la même valeur. Et c'est ça qui est surprenant.
Par opposition donc à la matière noire ?
Alors, la matière noire, ça, c'est encore autre chose. Je n'ai pas du tout de compétences pour parler de matière noire ou d'énergie noire. Mmh. Ça, c'est un domaine qui est... C'est de l'astrophysique et c'est un truc qui me dépasse complètement.
Alors, ces scientifiques, ces astronomes, en général, sont à la fois dans du... On allait dire dans de la théorie scientifique, mathématique, mais finalement, j'allais dire bloqués, cantonnés par notre propre... capacité à avoir développé des théories, donc très très terriennes, face à toute une partie qui pourrait être imaginée.
Oui. Alors, c'est vrai qu'une bonne théorie, en général, se base sur la pratique. Enfin, c'est Marx qui disait ça. Mais, disons qu'on se base sur le monde qu'on connaît, sur notre monde à nous, pour être plus... aristotélicien, quoi, en fait. Et dès lors, si on veut baser une théorie, il faut déjà chercher peut-être à comprendre dans le monde dans lequel on est pour arriver à extrapoler quelque chose qui nous dépasse. Moi, je trouve qu'il y a des théories... Alors, tout à l'heure, on parlait des trous noirs. Il y a des théories, notamment dans celle d'Einstein. Là, c'est la théorie, la relativité. Alors, il y a celle qui est restreinte, qui explique le côté indépassable de la vitesse de la lumière, et une autre qui explique l'espace d'une façon plus générale. Et il y en a une autre qui dit que... Enfin, la théorie, la relativité générale, dit que, en fait, il y a des parties de l'univers qu'on peut arriver à plier comme une feuille, comme ça, ce qui permet d'aller rapidement d'un espace à un autre. Ça peut être un point, par exemple.
Ah là là, ça va nous replonger dans certains films. Enfin bon, bref. Alors 22h, observation au télescope. Donc là, vous avez, il y aura plusieurs télescopes. Constellation, Saturne, Voie lactée. Donc toutes ces planètes assez proches.
Entre autres.
Ben oui, voilà, c'est celles que vous avez citées. Mais j'imagine qu'on peut les voir toutes. Mars se voit à l'œil nu.
Oui, Mars, oui.
Vénus aussi, bien sûr.
Alors Vénus, oui, est-ce qu'elle sera encore apparente à partir de 22h, je ne sais pas. Certainement Jupiter et les planètes de Jupiter et les satellites qu'il y a autour. Qu'est-ce qu'on va pouvoir observer? Je crois me rappeler qu'il y a la Lune qui sera peut-être apparente. Et on verra certainement les cratères de la Lune. Ouais. Ça, c'est intéressant à voir.
Jupiter, elle est assez perturbée comme planète, d'ailleurs. Ça brûloie dessus, non? C'est pas un peu...
Alors, disons que c'est une planète qui est très... La surface est très mouvementée, parce qu'il y a une... On sait qu'il y a une tempête entre deux anneaux. Et si on mettait une petite tête d'épingle sur cette tempête, en fait, disons que la Terre aurait à peine la dimension d'une orange par rapport à cette tempête, pour donner les dimensions de Jupiter, à peu près. Quoi. Mmh. C'est gigantesque.
Oui, c'est la plus grosse.
D'ailleurs. Alors actuellement, du système solaire, il y a quand même le Soleil qui a une belle proportion aussi, qui est quand même très 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 gros. Jupiter vient après, bien sûr. Mais pour parler en termes de dimension, il y a Beltégueuse qui est une géante rouge qui est... alors je ne connais plus les masses que ça représente. Et au-dessus, il doit y avoir le grand chien. Dans le grand chien, pardon, il y a Sirius, qui est aussi une étoile qui est géante. Absolument gigantesque. Bien plus grande que Beltégueuse. Alors, c'est pour donner un avis, une idée de proportion.
Ouais, finalement, on est vraiment tout petit. Hein.
Des fois, je me demande si on n'est pas un rêve, quoi.
Ça rend pas un peu fou d'être astronome?
Non, il y a
des... passionné d'étoiles, de ciel.
Non, ça rend pas fou. Ça prend conscience de sa folie et ça permet de la canaliser un peu, quoi.
Alors, si vous voulez canaliser votre folie, donc la fête des étoiles à Marignac en Diois, c'est samedi 10 août à partir de 17h. Bon, il y a des numéros...
Pour des gens qui ne savent pas où c'est et pour des gens qui disent « mais c'est où Marignac ?» ou alors des gens qui parlent en anglais, qui sont d'origine hollandaise, quoi, voilà.
Alors vous avez fait une traduction en hollandais, c'est ça?
Non, pas cette année.
Ah non. Alors ben voilà, rendez-vous donc, pardon.
Alors j'ai retrouvé la distance que parcourt la Terre autour du Soleil, c'est 940 millions de kilomètres. Voilà.
C'est bien ça, il y avait une anti-sèche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dessus?
Alors que le Soleil brûle 4 millions de tonnes d'hydrogène. Alors, oui, mais en combien de temps? À la seconde. Donc voilà, j'y pensais tout à l'heure et puis je suis parti sur autre chose. Voilà.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Bon, le diamètre de la Terre, mais bon, ça, c'est pas très important. C'est 12 700 km, ça, c'est pas grave. Le nombre de galaxies, c'est estimé, c'est 100 milliards de galaxies. Entre 100 et 1000 milliards d'étoiles par galaxie, ça fait 10 puissance 9, à peu près à 10 puissance 12, c'est quand même conséquent. Il y a 500 milliards de milliards d'étoiles similaires au Soleil de notre système.
Tout ça, c'est de l'estimation aussi.
Ce sont des estimations assez fines, hein, quand même.
Basé sur quoi? Il y a plein de galaxies qu'on ne voit pas, d'ailleurs.
Basé sur l'informatique, hein. Oui. On a 100 milliards de milliards d'exoplanètes estimées. C'est quand même pas mal.
Les exoplanètes sont celles qui ressemblent à la Terre, c'est ça?
Où la vie pourrait s'y développer, entre guillemets, voilà.
Et encore une fois, la vie selon nos propres critères, c'est-à-dire parce selon qu'il y aurait de l'ozone,
de l'oxygène. Ou alors peut-être qu'il faudrait développer une pollution autour de cette planète pour pouvoir retenir l'oxygène ou une atmosphère, quoi.
Ce qu'on est en train de penser pour Mars, par exemple. Oui, même si ça a peu d'intérêt.
Polluer une planète, ça on sait faire, il n'y a pas de problème.
Oui. Mais bloquer son oxygène.
Quel est l'intérêt d'aller sur Mars à part faire plaisir à Donald Trump ou Elon Musk? Ça, on s'en fout, ça.
Ouais, c'est vrai, c'est pas très intéressant. Autant aller vraiment loin, quoi.
Ouais, je sais pas. Ouais. Je sais pas, ou économiser l'énergie sur Terre. Ou,
ouais, voilà. Bien sûr.
Éviter de couper des forêts pour faire des papiers, envoyer de la pub, des conneries comme ça, quoi.
Au fond, on en revient à la réflexion de départ, c'est-à-dire que c'est bien beau d'aller regarder le ciel, d'imaginer ce qu'on veut, voir peut-être qu'il y ait d'autres planètes, mais on s'en fout, au fond. Restons ici et
non,
protégeons notre espace.
Non, il ne faut pas s'en foutre, il faut comprendre. Il faut toujours chercher à se demander, mais quel est le sens de tout ça? Quel est notre sens de notre vie? En fait, ça, c'est vrai que c'est un miroir qui se ramène toujours à nous-mêmes, ça je suis d'accord. Mais qui détermine aussi notre position, nos envies, nos désirs, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ça.
Est-ce qu'on a oublié quelque chose, Bernard?
On oublie toujours quelque chose. Rien n'est jamais fini.
Merci.
De rien. C'était un plaisir.
Prochaine.
Et longue vie à Radio Diwa.
Merci.